J'aime bien Olivier qui nous écrit au 25226. Je l'aime bien, Martin Thomas, on l'entend pas souvent. C'est parce qu'à toutes les fois qu'on l'entend, dites-vous que ça a coûté une location de voiture, ça a aussi coûté un hôtel.
Ah, je coûte pas si cher que ça. Mais il y a un auditeur, parce que à Saguenay cette semaine, j'ai dit que je venais remplacer. Mm-hmm. Et je disais que, tu sais, après 10 ans, il y a une relation qui se fait avec les auditeurs. T'sais, je connais mes auditeurs me connaissent, puis on part sur une belle base, puis tout. Puis là, je me disais, je vais revivre ce que j'ai vécu il y a 10 ans, là, du monde qui vont m'écrire, genre, t'as une voix de marre, c'est dégueulasse, je t'ai écœuré, c'est qui lui, il est ben poche. Et il y a un auditeur qui m'a écrit ça en direct, puis là, je riais. Et ce matin, le même auditeur vient de m'écrire, ici, au FM 93. C'est qui, lui, voix de marde, il est bien poche.
Sérieux?
Et là, il m'écrit « Salut Martin Thomas du Saguenay ». J'ai fait « Ah, oh, mon Dieu! »
C'est excellent, ça.
Quel fan, pareil. Il a décidé de se brancher ce matin à Québec pour m'écouter. J'ai fait « Wow! » En tout cas, j'ai reçu mon commentaire. Merci. Ça m'a fait du bien.
On le dit souvent, sans les auditeurs, nous, on serait pas là. Hein. Puis c'est un peu la même chose pour mon histoire de Miata à matin. Là.
Exact.
Tu sais, c'est le lien. La radio est le média le plus de proximité possible. C'est instantané.
Ah, puis la relation est forte, là. Tu sais, comme disait la Poune, j'aime mes auditeurs même, tu sais. Ici, je me retrouve avec des auditeurs qui me connaissent pas. Donc là, c'est, je suis un peu insécure, mais ça va bien aller.
Retour sur les feux d'artifice. Il y a Julie qui dit, on n'embarque pas dans l'histoire du choc post-traumatique, ceux qui ont des feux d'artifice proches puis qui trippent pas, là. Quelqu'un qui a eu un choc par rapport à une auto ou l'autre, ou une autre façon, on n'arrête pas les voitures pour le reste, d'accord, mais là, faut pas arrêter de vivre pour ça. C'est vrai, mais le fait est que à la base, à moins de respecter toutes les conditions, faire des feux d'artifice, c'est pas légal.
Mais c'est ça.
Puis ça dérange tout le monde. Et ça, honnêtement, je suis sans pardon, moi, pour les gens qui se considèrent seuls au monde puis que ça leur dérange pas de déranger les autres. Fait que là-dessus, je me dépompe parce que là, on se déplace à 13 heures de décalage horaire d'ici. On s'en va au téléphone rejoindre Marc Durand, qui est journaliste sportif. C'est notre envoyé Cogeco pour couvrir les Jeux olympiques à Tokyo. Marc, bon, ben, nous autres, bon matin. Bonsoir pour toi.
Ben, bon matin quand même. C'est bien correct.
Écoute, commençons avec ce qui a marqué beaucoup de conversations depuis l'arrivée des gens à Tokyo. Côté météo, ça commence-tu à être vivable ou on est encore dans une température très chaude et très humide?
Ah non, on pensait qu'au Québec, l'été, c'était chaud, là, mais c'est comme ça tout le temps ici. C'est tellement fou que il y a des collègues qui étaient au tennis aujourd'hui, là, c'était 40 degrés là, à la hauteur du terrain. Alors, imaginez les joueurs, les joueuses, c'est fou. Là. Ils sont habitués, semble-t-il, mais c'est pas parce que c'est le réchauffement de la planète, ça aide pas, là, mais c'était comme ça en 64 aussi. Et les Jeux de 64 avaient été déplacés à l'automne, justement, parce que on se disait les athlètes vont souffrir là, de courir et de rouler à des températures extrêmes comme ça. Sauf que cette fois, les droits olympiques ont changé depuis 1964. NBC met des milliards de dollars. Puis lorsque l'organisation a demandé de faire les Jeux en septembre, là, c'est NBC qui a dit, ben, t'sais, nous autres, là, autant d'autres choses à se présenter que les Olympiques. Fait qu'on garde ça au mois de juillet août. Alors, des fois, malheureusement, c'est pas toujours la logique qui l'emporte.
Mais là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on risque de voir d'autres cas comme l'archère russe qui a perdu connaissance hier.
Oui. Ben là, on souhaite pas, mais effectivement, faut faire attention. Mais je voyais les cyclistes aujourd'hui. C'est vrai qu'en roulant à des vitesses comme ils le faisaient, c'est peut-être pas si mal, mais bien hydraté, bien manger, tout ça. Et pour les épreuves marathon, par exemple, ou la course à pied, on a un cas de Lac-Beauport, là, Mathieu Bilodeau. Lui, sa course, son sport en athlétisme, là, c'est le moins sexy du groupe. Là. 50 km marche, là. Mm-hmm. C'est pas évident. Le départ est à 5h30 du matin. On prend pas de chance. Au moins, il fera pas 35, il va faire 24. Alors, pour un bout, en tout cas, les retardataires vont souffrir plus que les autres. Il ne faut pas marcher vite dans ce temps-là.
Est-ce que ça se pourrait, puis là, on est dans le 100% spéculatif, là. Mais ça se pourrait-tu qu'on voit des résultats qui soient moins élevés en moyenne qu'à d'autres Jeux d'été, justement parce que les athlètes risquent d'avoir de la misère à se pousser au max sans perdre connaissance?
Ben, peut-être. En même temps, comme les courses sont vraiment si longues, là, 100 mètres, c'est un 100 mètres, un 800 mètres, c'est quelques... C'est, non, je pense pas que ce soit un enjeu. Maintenant, on verra au fur et à mesure, parce que des surprises, il y en a beaucoup déjà. Là, quand l'Argentine qui a perdu 2-0 en Australie chez les hommes en soccer, et puis quand les Américaines perdent 3-0 contre le Japon, chez les femmes, alors qu'ils sont les champions du monde incontestés. Alors, il peut y avoir des surprises. Ce sont les Jeux des surprises à Tokyo, puis il va en avoir sur les terrains aussi, j'en suis convaincu.
On parlait de jeux de surprises. J'ai lu ton papier dans le Soleil. Le jeu des permissions et des restrictions, ouais. ça a l'air quand, pour quelqu'un qui n'est pas là, J'ai quasiment l'impression que le Japon veut pas les journalistes, alors que c'est pas vrai, là, mais c'est, ça a l'air d'être une ambiance très particulière. Hein.
Ben, je pense que c'est un mal nécessaire. Ils sont importants, les journalistes, pour parler de leurs jeux et tout ça. Mais en même temps, lorsqu'on reçoit les jeux, imagine qu'on a les jeux à Québec un jour. Là. Puis là, la presse de 250 pays se déplace. On aimerait ça qu'ils parlent de Québec au niveau touristique, puis qu'ils fassent un petit tour sur le fleuve, puis qu'ils parlent du Château Frontenac, puis qu'ils en parlent. Mais on peut même pas faire ça, parce qu'on n'a pas le droit de se promener en ville. Là. C'est comme interdit pour les 14 premiers jours d'affectation journalistique. Alors, tout ce qu'on peut se rabattre, c'est sur les histoires de COVID depuis quelques temps, puis là, finalement, on parle de sport depuis aujourd'hui. Alors, c'est certain que les Japonais sont pas heureux de la situation, puis ils sont très malheureux de la situation. Ils peuvent même pas acheter à leur propre jeu. Ça leur a coûté 17 milliards, puis ils sont même pas invités à la fête. Alors, c'est vraiment triste ce qui se passe. Et bon, au niveau sport, ça paraîtra pas tant que ça, sinon le manque de spectateurs dans les gradins. Quoi que la course en vélo aujourd'hui, on a vu quand même des gens s'agglutiner sur le parcours et encourager des cyclistes au passage, mais à l'arrivée dans le grand stade, dans le parc automobile de Fuji, là où il y a la course de Formule 1, ben, il y avait personne à peu près. Alors, c'est ça. C'est pas l'idéal, mais finalement, regarde, l'important, c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin.
donc, tu me disais, là, vous avez un 14 jours d'isolement à faire. Toi, est-ce que c'est terminé? Il vous reste peu de jours?
En fait, la presse avait une option, donc 3 jours. Et après les 3 jours, on peut se déplacer, mais seulement dans la bulle olympique. Alors, mon trajet là pour les 11 jours qui vont suivre, là, c'est hôtel, centre des médias, événement sportif. Centre des médias, hôtel. Hôtel, événement sportif, comme ça va être c'est une espèce de bulle. Alors, dans cette bulle-là, il y a les bénévoles, il y a les athlètes, il y a les confrères journalistes, et c'est tout. Et les invités du CIO.
Parce que c'est
c'est comme ça qu'on réalise.
C'est un peu mon autre question, en fait. Là. Ça veut pas dire que vous allez être, je dis vous, les journalistes, mais toi aussi, que vous n'aurez pas accès aux athlètes. Vous allez être capable de les rencontrer éventuellement.
Ah oui, bon, on les rencontre, mais c'est sûr qu'on a des masques. On les rencontre de loin. La zone de presse, aujourd'hui, je l'ai vécu pour la première fois. Là, je suis allé voir le match de volleyball Canada et Italie, puis je me demandais comment il s'est fait la configuration. Vous savez, c'est l'espèce de serpentin, on le voit des fois à la télé, là. La tête doit passer à travers une série de parcours, finalement, où il y a des journalistes qui les attendent, mais là, je regardais le serpentin, donc comment on va faire pour leur parler, mais là, j'ai compris qu'il y avait comme 2 clôtures, donc un athlète, un espace de près de 2 mètres et nous. On n'a pas le choix. On peut pas être proche. Okay. Alors là, c'était du jeu d'imagination. J'ai pris mon monopode, ce qui sert à la caméra. Puis j'ai mis mon micro au bout. Puis j'ai allongé tout ça. Ça a fait 2 mètres. Puis on a pu parler aux entraîneurs, aux joueurs de l'équipe canadienne. Alors, ça fait partie des contraintes aussi. Les athlètes, on ne pourra pas leur parler vraiment autrement qu'après une partie ou à la fin s'ils remportent une médaille puis ils vont aller sur un podium comme Dominique Ducharme le faisait pour le Canadien après un match du Canadien. Il n'y aura pas de moment un peu plus personnel où on pourra leur parler. Ça va être assez froid. Malheureusement, c'est comme ça. On ne veut vraiment pas propager le COVID et les athlètes canadiens vont jouer le jeu jusqu'à la fin, j'en suis convaincu.
Dis-moi, Marc, on pensait peut-être obtenir notre première médaille d'or canadienne hier soir avec Michael Woods. Finalement, il a terminé 5e. Moi, je suis avide de victoire puis je veux surtout voir le Canada performer, qu'est-ce que je dois surveiller pour notre première médaille olympique?
Ah, bonne question. Il y en a quelques-unes. En fait, certains sites parlent de 31 médailles. Hein. Le minimum 20 pour les Jeux, donc à peu près une par jour. Alors, faut être attentif. Mais sinon, 31, ce serait exceptionnel. La meilleure récolte, ben, ça a été à Los Angeles en 84, mais ça comptait pas hier. Ça comptait pas. C'est pas gentil pour ceux qui ont eu des médailles, mais il manquait beaucoup de pays. Ouais, c'est pas fin. Mais
ça comptait les Jeux olympiques, là, ceux-là, on les barre.
Ouais, mais c'était pas les Jeux où les Russes n'étaient pas là, c'est ça?
Ben, c'est ça, c'est le bloc de l'Est qui a décidé
ouais,
de participer. Alors, il manquait pas mal de potentiel de médailles. Mm-hmm. Mais attends un peu, là, des chances de médailles, ben écoute, juste dans la région de Québec, là, on a, ben, la région de Québec est un peu éloignée, mais on a Félix Auger Aliassime, qui va jouer à partir de demain, là, son premier match. Il affronte Andy Murray, pas un méchant adversaire quand même, le double ouais. Champion olympique en tennis. Mais Félix est classé 15e au monde, Andy est 109e maintenant. Alors,
ouais, ben c'est à cause d'une blessure aussi.
Avantage Félix au niveau du moral. Hein? Pardon?
Ben,
hein?
C'est, Andy Murray a descendu à cause qu'il a été blessé tout au long de l'année. Là. C'est sûr que ça, c'est un mauvais choix au tirage pour Félix Auger-Aliassime.
Oui, disons. Mais lui, il a une chance. On place Félix sur le podium, entre autres, sur le fameux site qui parle des prédictions, en double mixte. Alors, il va peut-être avoir une chance aussi de se qualifier. Oui, de ce côté-là aussi. Alors, ça va être intéressant. Sinon, les plongeuses canadiennes, je pense qu'on va avoir du succès au niveau du synchro. En natation, Catherine Savard, dès demain, pourrait, pilier de Pont-Rouge, pourrait être du 4x100 mètres de la finale. Dans quelques minutes, d'ailleurs, c'est la demi-finale du 4x100 mètres. Le Canada devrait facilement se qualifier dans les 8 premières. Donc, participe à la finale demain. Et Catherine fait partie de ce relais. Alors, en natation, facilement 8 médailles. Facilement. C'est bête. 5 et plus, mettons. Athlétisme, André de Grasse, connaît un après Rio difficile, mais on connaît le bonhomme. Dès qu'il arrive un grand championnat, il performe super bien. Alors, peut-être 2 médailles de ce côté-là. Damien Warner. Je nomme des noms. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je place des noms comme ça qu'on connaît moins, mais on a plusieurs chances de médailles. En fait, dans 15 sports, on a des chances réelles de médailles. Puis Michael Woods en faisait pas partie, t'en parlais. Quelle belle course aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça. C'était magnifique de voir Woods jusqu'à la fin se battre. Et, écoute, après 216 km, il a perdu par 1,7 seconde. Il a perdu la troisième place. Alors, c'est quand même. C'était de toute beauté, cette course-là. Beau travail de Hugo Hull également, de Guillaume Boivin, là, ceux qui travaillaient pour lui pour le faire passer en première place quelque part à 25 km de la fin. Alors, ils ont fait le travail aujourd'hui, mais bon, alors, c'est ça. Des fois, on aura des passes proches, des fois, on va être déçu, des fois, on va être surpris. Mais je pense qu'on peut avoir 1 à 2 médailles par jour là, d'ici la fin des Jeux. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça va être le cas aujourd'hui, mais il n'y avait pas beaucoup d'épreuves de médailles. Oui.
Hier, est-ce que tu as eu la chance de regarder le match de volleyball entre Canada et l'Italie?
Ben, j'étais là. Ah. J'étais là. J'adore le volleyball.
Ben là, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé.
Ben là, j'aimerais ça savoir aussi. En fait, les gars ont comme perdu le focus. C'était presque trop facile. 2 victoires, 2 manches contre l'Italie, médaillé d'argent, c'est quand même pas rien. Par contre, ils avaient battu l'Italie à Rio en 2016. Ils ont battu 5 fois depuis. Donc, c'était quand même pas... ça allait bien, mais ils ont jamais gagné en 3-7 contre l'Italie. C'est jamais arrivé. Puis gagner en 3-7 en volleyball, là, parce que ton équipe adverse est vraiment pas bonne. C'est dur de gagner en 3-7. Alors, ils sont revenus. Ils venaient par 5 points à un moment donné dans le 3e set. Peut-être que là, sur 10, ça n'a pas de bon sens. On est en train de les battre. Et ils ont fait 9 points d'affilée. L'Italie est revenue. On a gagné le 3e set. Après ça, ça a été fini. Là, on n'était plus là. Alors, une jeune équipe, Glenn Oak est sans doute l'entraîneur de l'équipe canadienne. D'ailleurs, c'est mon texte dans le soleil de demain. Glenn Oak, c'est probablement le meilleur entraîneur de sport d'équipe, tout sport confondu au Canada. S'il coache au hockey, ce serait le meilleur. S'il coache en baseball, il coache en volleyball. C'est un gars de Sherbrooke. Il a un talent fou. C'est un leader. C'est un gars très humain. C'est un gars sérieux. Les gars veulent jouer avec lui. Son équipe, ses adjoints veulent travailler pour lui. Dino Brousseau, coach en chef du Rougeur volleyball. Ben, c'est son adjoint, puis il en parle. C'est comme un dieu. Il est considéré dans le monde comme un des meilleurs entraîneurs de volleyball tout court. Il entraîne en Turquie depuis des années, qui est un pays fort au niveau professionnel. Alors, c'est l'objet du reportage. Mais jamais dans ce match-là, malgré les erreurs de ses joueurs, jamais je l'ai vu lancer son pad, crier après l'arbitre. C'est un gars calme, posé. Le tournoi, c'est 5 parties. Ça aurait été le fun de gagner aujourd'hui, mais les 3 prochains matchs sont accessibles pour eux. Il restera la Pologne à la fin du tournoi à la ronde. La Pologne, son 2e au monde. C'est pratiquement une médaille assurée. Alors, non, je pense qu'il fait bien les choses. Oui, c'est une défaite, mais c'est une défaite. C'est pas la défaite olympique. C'est pas fini. Et les dégâts vont rebondir. J'en suis convaincu.
Marc Durand, journaliste sportif, merci beaucoup de ton temps ce matin. Écoute, si t'es disponible demain, on te reprendra à même heure.
Ben, moi, pas de problème. Je suis payé à l'heure, alors pas de problème. On peut rester longtemps, là.
Du beau booking en direct, ça?
Oui. Et puis, écoute, on a beau dire que les Jeux à Tokyo, c'est pas ce qu'on aurait espéré quand on est sur place. On a beau trouver que l'expérience est spéciale. Mais Marc, t'es plus à Tokyo que la majorité des gens ici à Québec aujourd'hui.
Ah oui. Mais écoute, honnêtement, oui. Ah ben écoute, moi tu sais, malgré mon texte dans le soleil, là, je suis vraiment content d'être ici, hein, sérieusement. Puis je ne changerai pas de place au monde.
Hey, merci beaucoup. À demain matin, Marc.
C'est un plaisir. À demain.
Bonne journée.
Bye bye.
Et c'est vrai, pareil. Il est à Tokyo. C'est un de mes rêves, moi, d'y aller. Peut-être pas pendant une pandémie, là.
Non, parce que là, tu feras pas grand-chose.
Non, c'est ça.
En fait, surtout si t'as juste 2 semaines.
Oui, exactement.
Tu vas être isolé, puis tu vas repartir.
Je sais pas c'est quoi l'expression en français, les bragging rights, les droits de se vanter.
Mm-hmm.
Il y a au moins le droit de se vanter qui a mis les pieds à Tokyo, alors que combien ici l'ont fait?
Ben, ils sont historiques aussi, ces jeux-là, parce qu'on n'en revivra pas, là, des jeux en pandémie comme ça. Ben, en tout cas, on espère.
Touche du bois, toi.
Ouais, touche du bois.
Mais ça me fait capoter de voir, puis je l'avais déjà entendu l'histoire qu'il nous disait à propos de NBC qui avait dit non, on ne déplacera pas les jeux à mm-hmm. cause de notre grille horaire télé. Mais c'est épouvantable de voir à quel point on s'en fait pas plus que ça pour les athlètes, qu'on s'en fait pas plus que ça pour les conditions, puis que c'est rigide. Je comprends qu'il y a une certaine rigidité. Tu peux pas facilement déplacer des Jeux olympiques comme ça. Sauf qu'on l'a vu avec la pandémie, on a été capable d'y retarder d'un an.
Ouais, mais t'as peu, là. C'est parce que le principal commanditaire des Jeux olympiques, ça reste les droits de télédiffusion. Fait que là, à un moment donné, quand t'as la NFL, là, puis que c'est ton pain pis ton beurre, là, tu tasseras pas à NFL qui te ramène beaucoup, beaucoup d'argent pour des Jeux olympiques.
Non, je comprends, mais à la base, quand on a octroyé les droits à Tokyo, il aurait peut-être fallu se souvenir de la leçon des années mm-hmm. 60 et de la température historique de Québec. De Québec, de Tokyo. Parce que, tu sais, tu regardes à Québec, on le sait, quand est-ce que les périodes de canicule sont historiquement dans l'année. Tu t'organises pas des événements gros comme ça à ces périodes de l'année-là. Tu le fais quand c'est un petit peu plus vivable. On le sait c'est quoi la température à Tokyo. On le sait quand est-ce que ça arrive. Tu sais, ça aurait pu faire partie de la réflexion, de la négociation aussi, à quelque part là-dedans. Puis, j'ai lancé l'idée hier, puis je le sais que ça ira pas plus loin que moi qui lance l'idée, mais on est peut-être rendu à une étape de faire des Jeux olympiques mondiaux à chaque fois, dans le sens où est-ce que tu organises des épreuves pour les Jeux olympiques d'été, bon ben, le cyclisme se fait à Barcelone, le hockey sur gazon se fait en Saskatchewan, la natation se fait à Salt Lake City,
ouais.
et comme ça, t'as une couverture mondiale par épreuve, t'as des sites dédiés, t'es obligé de faire moins de dépenses par
pays. Oui, mais on appelle ça des championnats mondiaux, ça.
Oui.
Fait que les Olympiques, c'est que tout le monde est à la même place.
Oui, mais tous en même temps.
Ben, c'est des championnats mondiaux. Tous ensemble, dans la même ville, je pense que c'est l'ambiance. J'ai jamais vécu des Jeux, évidemment, mais j'imagine qu'être tous les athlètes dans la même ville, les journalistes, ça doit être juste un gros vibe.
Tu sais, en même temps, je veux dire, t'es une entreprise de médias, tu sais, des journalistes, là, t'en enverras pas aux quatre coins du monde. Là.
Non,
tu
c'est
vas,
sûr.
Puis là, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir des compétitions qui vont être pas couvert, tout simplement. Tu sais, je veux dire, les journalistes, quand ils sont là-bas, là, ça arrive que dans le temps libre, ils vont voir des épreuves qui les intéressent moins. Et là, c'est de la couverture pour ces épreuves-là. Ou la surprise arrive dans une épreuve que tu n'avais pas vu venir. Mais là, t'es sur place. Imagine-toi, t'as une médaille d'or gagnée dans la plus grande ignorance dans un pays.
En
Saskatchewan, puis il y avait pas un maudit journaliste là pour couvrir ça. Tu sais, je veux dire, c'est, pour les athlètes, c'est une catastrophe.
Et j'ai pas dit que mon idée était parfaite.
Non.
Mais je confirme qu'on l'a démolie.
Mais à mi-chemin, par contre, dans un pays, dans plusieurs villes, ça oui.
Oui, tu sais,
ça oui.
Comme je dis, je fais juste lancer l'idée parce que je sais que le Comité international olympique sont des fidèles auditeurs.
Oui.
Ils me textent personnellement régulièrement.
Okay,
bonjour
ouais,
François,
ouais.
Bonjour ce matin. Mais, tu sais, je lance l'idée pour pouvoir faire du pouce là-dessus. Rarement ma première idée est la bonne, mais des fois on fait comme hey, gros, il n'est pas tout à fait tort.
Mais il y a une réflexion au niveau du Comité international olympique qui va devoir se faire parce qu'il y a de moins en moins de villes à chaque année qui présentent leur candidature pour recevoir les Jeux olympiques. Ça coûte énormément d'argent. On parlait de 17 milliards pour Tokyo. Puis contrairement à quelque chose comme le Super Bowl, qui coûte de l'argent à recevoir, mais où tu en fais plus comme ville, c'est pas le cas avec les Jeux olympiques. Là, tu payes plus que ce que tu fais. Donc, il y a de moins en moins d'avantages. C'est une question de prestige et de recevoir les Jeux olympiques, mais on est rendu à une époque où c'est de moins en moins intéressant pour le contribuable moyen de payer pour du prestige.
Pis c'était combien de milliards, Tokyo? Là? Autour de 15? Là, que ça
c'est ce que tu viens de dire, 17 à peu près?
Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui a dit 17 en premier. Ouais. Là. Prenez pas mes chiffres pour
d'argent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que là, je me trompais avec GNL qui avait des...
14
milliards, puis Tokyo, ouais. 17. C'est des chiffres qui ressemblent.
Sochi, ils ont bâti Sochi pour des milliards de dollars. 50. Parce que c'est vide.
Ben, c'est
mais
ça.
Il n'y a plus personne.
T'sais, on s'entend que Sochi, c'est une autre mentalité. C'est la Russie. Ils veulent rayonner sur le monde, puis bon, bon, il y a eu des, un côté politique à tout ça aussi, là. On s'entend, quel pays ne veut pas se mettre la cache sur la table pour montrer qu'il y a la plus grande, là?
Ben, c'est ça, de moins en moins, il y en a. C'est ça le problème.
Là, c'est ça, ça donne des choses comme Brisbane, en Australie, qui ont eu les Jeux Olympiques, mais quasiment par défaut puis de force, là. Ça leur tentait pas tant que ça, en bout de ligne. Donc, il y a un gros questionnement sur l'avenir des Jeux Olympiques qui s'en vient dans la prochaine décennie et demie, d'après moi, là. Des gros changements qui restent à arriver. Sur 25-226, superbe entrevue. Ce que j'ai retenu, je ne veux pas de Jeux Olympiques au Canada. Trop cher pour rien. On l'a vu en 76.